Juillet. La dernière page de ma mère. Samedi 1er. L'année est donc terminée, Henri. C'est vraiment une jolie clôture que l'histoire de cet enfant héroïque qui donne sa vie pour sa petite amie. Tu es bien près de te séparer de tes maîtres et de tes camarades, et je dois t'apprendre une triste nouvelle. La séparation ne durera pas 3 mois, mais toujours. Ton père, pour des raisons tenant à sa profession, doit partir de Turin, et nous tous avec lui, bien entendu. Nous partirons l'automne prochain. Tu entreras dans une école nouvelle. Cela te fait de la peine, n'est-ce pas? Je suis certaine que tu aimes ta vieille école où, pendant 4 ans, tu as eu la joie de travailler 2 fois par jour. Où tu as vu pendant si longtemps les mêmes écoliers, les mêmes maîtres, les mêmes parents, et ton père et ta mère qui t'attendaient en souriant. Ta vieille école où ton intelligence s'est ouverte, où tu as trouvé tant de bons amis, où chaque parole était prononcée pour ton bien. Les punitions t'ont également été utiles. Emporte ce souvenir en adressant un adieu du plus profond de ton cœur à tes camarades. Beaucoup d'entre eux éprouveront des malheurs, ils perdront peut-être de bonheur leur père ou leur mère, d'autres mourront jeunes, d'autres peut-être verseront leur sang noblement sur un champ de bataille. Presque tous seront de braves et honnêtes ouvriers, pères de famille travailleurs et dignes de respect, et qui sait si parmi tes camarades il n'y en aura pas un qui rendra de grands services au pays et illustrera son nom. Sépare-toi d'eux affectueusement, laisse un peu de ton âme dans cette grande famille où tu es entré petit enfant, d'où tu sors adolescent, et que ton père et ta mère aimaient tant parce que tu y étais aimé. L'école est une mère, mon Henri. Elle t'a pris de mes bras quand tu parlais à peine et te rend à moi fort, bon, studieux. Qu'elle soit bénie, et toi, ne l'oublie jamais, mon fils. Tu deviendras homme, tu voyageras autour du monde, tu verras des cités immenses et de beaux monuments, mais tu te rappelleras toujours ce modeste édifice blanc, aux persiennes closes, au jardin ombragé, où germa la première fleur de ton intelligence, comme je me souviens, moi, de la maison bénie où j'entendis ta voix pour la première fois. Ta mère. Les examens. Mardi 4. Nous voici décidément aux examens. Dans les rues, avoisinant l'école, on n'entend pas parler d'autre chose, examen, point, thème, etc. Enfants, pères, mères, gouvernantes ont tous la même conversation. Hier matin, on a fait la composition, ce matin, l'arithmétique. C'était émouvant d'entendre les parents donner de derniers conseils aux enfants qu'ils conduisaient à l'école, où les mères accompagnaient les petits jusqu'à leur banc, essayant les plumes et se tournant au seuil de la porte pour crier encore. « Courage ! Attention !» Notre maître assistant était M. Coati, celui qui imite la voix d'un lion pour gronder ses élèves et ne punit personne. Il y avait des enfants tout pâles d'appréhension. Quand le professeur décacheta la lettre de la préfecture et en tira le problème, on n'entendait pas un souffle. M. Coati dicta le problème à haute voix en nous regardant tous tour à tour avec des yeux sévères. On devinait pourtant que s'il avait pu dicter la solution du problème, il l'aurait fait avec grand plaisir. Nous nous mîmes au travail. Au bout d'une heure, il y avait beaucoup d'élèves qui commençaient à se décourager parce que le problème était difficile. L'un d'eux pleurait. Cross y se donnait des coups de poing dans la tête. Pauvres enfants, beaucoup d'entre eux n'étaient point dans leur tort. Est-ce leur faute s'ils ont peu de temps pour travailler et des parents qui ne s'occupent pas de leurs devoirs? Heureusement, la Providence était là sous les traits de Derossi. Derossi qui se donnait une peine inouïe pour venir en aide à ses camarades, pour leur passer un chiffre ou leur suggérer une opération sans que l'on s'en aperçût, attentif pour tous, comme s'il eût été, lui, notre professeur. Garonne, qui est fort aussi en arithmétique, aidait qui il pouvait et vint en aide même au fier nobis, lequel, se trouvant embarrassé, était devenu très aimable. Stardi fut pendant plus d'une heure immobile, les yeux fixés sur son problème, le front appuyé sur ses poings fermés, puis tout à coup il prit la plume et le résolut en 5 minutes. notre maître se promenait dans la classe en disant « Calmez-vous, je vous recommande le calme. » Quand il voyait un écolier découragé, il le réconfortait en le faisant rire, ouvrant une grande bouche comme s'il allait le dévorer et imitant le rugissement du lion. Vers 11 heures, on voyait à travers les persiennes bon nombre de parents inquiets qui allaient et venaient dans la rue, impatients de connaître le résultat du problème. Il y avait le père de Précosse et en côte bleue. Il s'échappait de son atelier, le visage encore tout noir de fumée. La mère de Crosse et la fruitière, la mère de Nelly, tout agitée. Un peu avant midi, mon père arriva et leva les yeux vers ma fenêtre. Cher père, à midi, tout était terminé. À la sortie, ce fut une véritable comédie. Les parents allaient au-devant des enfants, demandant, feuilletant les cahiers, confrontant leurs devoirs avec ceux des camarades. Combien d'opérations? Quel est le total? Et la soustraction? Et le report? Et la virgule des décimaux? Les professeurs s'entendaient appeler de tous côtés. Mon père m'enleva des mains mon brouillon, le regarda et dit « C'est bien !» Près de nous se trouvait le forgeron Précosse qui examinait aussi le travail de son fils. Il était un peu inquiet et, se tournant vers mon père, « Voudriez-vous, monsieur, me lire le total ?» Mon père le lui lut. Précosse y regarda aussitôt le cahier de son fils. C'était juste. « Bravo, mon petit » cria-t-il tout content. Mon père et le forgeron se regardèrent un instant, unis par la même pensée, le succès de leur enfant. Ils se sourirent comme deux amis. Mon père tendit la main au forgeron qui la lui serra. « À l'examen oral, à présent, » dit-il. On se sépara. Quelques instants après, nous entendîmes une voix de fossé qui nous fit retourner la tête. C'était le forgeron qui s'en allait en chantant. Le dernier examen, vendredi 7. Ce matin ont eu lieu les examens oraux. À 8 heures, nous étions tous en classe et à 8h15, on commença à appeler 4 élèves à la fois dans la grande salle. Autour d'une table couverte par un tapis vert, le directeur et 4 professeurs étaient assis. Parmi ces 4 professeurs se trouvait le nôtre, M. Perboni. Je fus un des premiers appelés. Pauvre maître, on devinait de suite qu'il nous aime réellement. Il n'avait Dieu que pour nous. Il se troublait quand nous étions incertains et il reprenait sa sérénité quand nous répondions bien. Il nous faisait des signes avec la main qui voulait dire « C'est bien !»« Non !»« Soyez plus attentifs !»« Plus doucement !»« Courage !» Il nous aurait soufflé les réponses s'il avait pu. Si, à sa place, se fût trouvé le père de l'élève interrogé, il n'aurait point fait davantage. J'aurais voulu lui dire 1000 fois merci. Quand les professeurs me congédièrent en me disant « Allez, c'est bien !» ses yeux brillaient de joie. Je retournai en classe attendre mon père. Presque tous les élèves étaient encore là. Je m'assis à côté de Garrone. J'étais triste en pensant que c'était la dernière fois que je m'asseyais près de lui. Je n'avais pas dit encore à Garrone que je ne devais pas faire ma 4e avec lui parce que nous quittions Turin. Il ne savait rien. Et il était là, plié en deux sur son pupitre, à ornementer à la plume les marges d'une photographie de son père, vêtu en mécanicien. Un homme gros et fort, qui a l'air bon et honnête comme son fils. Sous la chemise entrouverte de Garrone, je voyais la croix d'or que lui avait glissée la mère de Nelly quand elle sut qu'il protégeait son pauvre enfant. Je pris mon courage à 2 mains et je dis à mon ami « Garrone, mon père doit prochainement quitter Turin pour toujours. » Garrone me demanda si je partais avec lui. Je lui répondis que oui. « Tu ne feras pas ta 4e avec moi ?» Il resta quelque temps sans parler, dessinant toujours, puis me demanda sans lever la tête. « Te souviendras-tu de tes compagnons de 3e ?»« Oui, dis-je, de tous, mais de toi plus que tous les autres. Qui peut t'oublier ?» Garrone me regarda fixement, d'un de ces regards expressifs qui veulent dire 1000 choses. Mais il ne dit rien, me tendit sa main gauche, faisant mine de continuer son dessin de l'autre, et je serrai à la briser cette main loyale. En ce moment, M. Perbonne y entra, le visage animé, et nous dit vivement à voix basse, mais d'une voix allègre. « Bravo ! Jusqu'à présent, tout va bien. Que ceux qui restent tâchent de s'en tirer aussi bien que leurs prédécesseurs. Bravo et courage, mes enfants. Je suis très content. » Et pour nous montrer sa joie et nous amuser, il fit mine en sortant de glisser et de se retenir au mur pour ne point tomber. Lui, M. Perbonne, que nous n'avions jamais vu rire. La chose parut si étrange qu'au lieu de rire, nous restâmes tous ébahis. Quant à moi, cette plaisanterie enfantine de mon maître me fit mal. N'était-ce pas là son seul instant joyeux, une compensation pour 9 mois de bonté, de patience et de déplaisir? Pour ce moment-là, il avait tant travaillé, il était venu donner ses leçons, malade, triste, fatigué. Que nous demandait-il en échange de tant de peine et de tant de soins? Un sourire. Il me semble que je me rappellerai toujours mon maître faisant cette glissade juvénile. Et si, quand je serai un homme, M. Perbonne y vit encore, si j'ai le bonheur de le rencontrer, je lui dirai que cette action me toucha au cœur et je baiserai avec bonheur sa tête blanche. Adieu. Lundi 10. À midi, nous nous trouvâmes tous à l'école pour entendre le résultat des examens et prendre nos livres de promotion. La rue était pleine de parents qui avaient envahi jusqu'à la grande salle. Beaucoup même avaient pénétré dans les classes, près du bureau du professeur. Dans la nôtre, entre le mur et les bancs, on voyait le père de Garonne, la mère de Derossi, le forgeron Precossi, Coretti, Madame Nelli, la fruitière, le père du petit maçon, le père de Stardi, beaucoup d'autres parents que je n'avais pas encore vus. Et on entendait partout des bruits de voix, comme si on était sur une place publique. Lorsque le maître entra, il se fit un grand silence. Il avait la liste en main et se mit à la lire aussitôt. Abatici, promu. Archini, promu. Le petit maçon, Crossi, promu. Derossi Ernesto, promu avec premier prix. Tous les parents qui étaient là le connaissaient. Ils dirent « Bravo, bravo, Derossi !» Quant à Derossi, il inclina sa tête blonde, tout en cherchant les yeux de sa mère, qui lui fit un signe de la main. « Garonne, Garoffi, le Calabré, promu !» Monsieur Perbonne il lut 3 ou 4 noms d'élèves qui devaient redoubler leur troisième, et l'un d'eux se mit à pleurer, voyant son père qui lui faisait un geste de menace. Mais le professeur dit au père « Non, monsieur, excusez-le, ce n'est pas toujours la faute des enfants, c'est quelquefois mauvaise chance, et celui-ci est dans ce cas. » Puis il reprit sa lecture. Nelli promu. Sa mère lui envoya un baiser. Stardi promu. Le dernier promu fut Votini, qui était venu bien habillé et bien coiffé. Le professeur se leva alors et nous dit « Enfants, c'est aujourd'hui notre dernière réunion. Nous avons été 1 an ensemble et maintenant nous nous quittons bons amis, n'est-ce pas? Je regrette de me séparer de vous, mes enfants. » Il s'interrompit puis reprit « Si quelquefois la patience m'est échappée, si quelquefois sans le savoir j'ai été trop sévère, excusez-moi. » « Non, non, dirent les parents et les élèves, non, jamais. » « Excusez-moi, continua-t-il, et aimez-moi. L'année prochaine, nous ne serons plus réunis, mais je vous reverrai et vous resterez toujours dans mon cœur. Au revoir, mes enfants. » Cela dit, M. Perbonne s'avança au milieu de nous, et tous nous lui tendîmes les mains, nous levant sur nos bancs et prenant son bras ou le bas de son habit. Beaucoup d'entre nous l'embrassèrent, et 50aine de voix crièrent « Au revoir, maître. Merci. Portez-vous bien, ne nous oubliez pas !» Quand M. Perbonne y sortit, il paraissait très ému. Nous sortîmes tous, pressés, bousculés, en désordre. Parents et enfants disaient adieu aux professeurs et aux institutrices. La maîtresse à la plume rouge et la religieuse étaient assiégées littéralement par leurs petits écoliers. Beaucoup de gens entouraient Robetti, qui marchait pour la première fois sans béquille. On entendait de tous côtés « Au mois d'octobre, à l'année prochaine !» Les camarades se disaient adieu, oubliant dans une franche accolade les désaccords et les antipathies. Votini, qui avait toujours été si jaloux de Derossi, fut le premier à sauter à son cou. J'embrassai le petit maçon au moment où il me faisait une dernière fois le museau de lièvre. Je serrai la main à Precossi, à Garoffi, qui m'annonça que j'avais gagné un petit lot à une de ses loteries et me remit un petit cornet déchiré. Je dis adieu à tous les autres. Le pauvre Nelly s'accrochait à Garrone et l'embrassait en lui disant au revoir. Tous les élèves entouraient Garrone et faisaient fête à ce brave et loyal enfant. Le père souriait, étonné du triomphe de son fils. Garrone fut le dernier que j'embrassai dans la rue. Je ne pus m'empêcher de sangloter en lui disant adieu. Il m'embrassa sur le front, puis courut saluer mes parents. Mon père et ma mère me demandèrent « As-tu dit adieu à tous tes amis ? S'il en est quelqu'un envers qui tu as eu des torts, il faut aller lui en demander pardon. N'en est-il aucun ?»« Aucun, cher papa !»« Alors, adieu !» fit mon père d'une voix tremblante en jetant un dernier regard sur l'école. Ma mère répéta « Adieu !» Quant à moi, j'étais si émue que je ne pus prononcer une parole.